fidélité à Radio Mayuri Campus dans le cadre du lancement de l'année de la biologie. En Guyane, nous avons au téléphone avec nous Gaëlle Forné, vous êtes la responsable au CNRS en Guyane. Quelles sont les actions envisagez-vous de valoriser dans le cadre de cette année consacrée à la biologie dans notre département, Gaëlle Forné? Déjà, bonjour.
Oui, bonjour Michel, et donc je salue tous les auditeurs de votre radio. Donc j'espère que vous m'entendez bien.
Très bien.
Voilà. Donc très bien. Donc je suis effectivement la responsable de communication du CNRS, un national de la recherche scientifique ici en Guyane, donc affecté au laboratoire LESA, écologie, environnement, évolution de la biodiversité amazonienne. Donc, nous sommes associés cette année avec le rectorat pour lancer cette année de la biologie. Donc, le lancement aura lieu demain. C'est une action nationale qui est organisée au niveau du Centre national de la recherche scientifique et du ministère de l'Éducation nationale et qui est donc déclinée en région. À cette occasion, nous avons choisi de mettre en lumière plusieurs actions que nous faisons spécialement en direction des scolaires et spécialement cette année, et profitant pour cela de la récente célébration des 10 ans d'existence du laboratoire d'excellence SEBA en Guyane, Centre d'études de la biodiversité amazonienne. À l'occasion de ces 10 ans, le LABEX SEBA avait lancé un petit appel à projet pour sur l'interface sciences et société jeunes. Et on a eu donc des scientifiques qui ont proposé des actions à destination des scolaires. Donc nous en avons en particulier 4 qui rentrent complètement dans cette année de la biologie et qui vont être valorisés cette année. Demain d'ailleurs, c'est la première action que je vais vous présenter.
D'accord.
Et donc actuellement celle qui est montée à la bibliothèque universitaire. Donc ça consiste c'est une exposition faite de 12 kakémonos dérivés de la bande dessinée À la recherche de l'Amazonie oubliée de Laure Garancher aux éditions Delcourt. Un livre qui relate un programme scientifique qui s'appelle Long Time, un programme d'écologie historique, qui permet en fait par le croisement de plusieurs disciplines scientifiques, donc de la botanique, l'étude des sols, l'étude des vers de terre, de l'archéologie, enfin plein de disciplines différentes, de parvenir à reconstituer l'histoire difficile d'accès des peuples premiers d'Amazonie, parce qu'on est, comme chacun sait, on a peu de vestiges historiques,
oui,
qui sont toujours inaccessibles, enfin relativement difficilement accessibles, parce que recouverts par la forêt, parce que disparus dans le remaniement des sols.
Oui.
Mais justement, on a des techniques très récentes qui permettent aujourd'hui de pouvoir retracer cette histoire. Donc,
cette épopée
est expliquée dans le cadre de cette exposition qui donc sera présentée demain à la BU et qui ensuite tournera dans les collèges.
Alors, la BU, pour nos auditeurs, c'est la bibliothèque universitaire de l'Université de Guyane.
Oui, tout à fait. C'est la bibliothèque universitaire sur le campus de Troubiran, le campus de l'Université de Guyane à Cayenne.
Tout à fait.
Voilà, donc ça par exemple c'est la première action qui commence maintenant. Il y a également la remise de kits pédagogiques qui ont été faits à destination des lycées de Guyane, donc des kits pédagogiques en paléontologie, donc sur justement l'histoire des fossiles de la Guyane, quels animaux existaient avant les humains et dans l'histoire géologique de la Guyane. Donc on retrouve effectivement des vestiges aussi. Donc il y a des petits moulages 3D qui ont été faits.
Et là, c'est dans le cadre de la paléo-biodiversité?
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est une branche également de la biologie-géologie, en fait, qui consiste à reconstituer l'histoire pas seulement géologique, mais aussi des êtres vivants qui ont peuplé une région à partir donc des vestiges que l'on peut retrouver, des traces, des squelettes. Donc il y a des kits qui ont été réalisés, qui permettront, donc ils vont être remis dans les lycées.
Oui, pour les collégiens et les lycéens de Guyane.
Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'est une deuxième action. Ensuite, nous avons aussi, qui sont arrivés hier par l'avion, deux dessinateurs, donc Delphine Zigoni et Julien Norwood, qui sont deux dessinateurs naturalistes, qui nous ont rejoints. Donc, ils vont passer 2 mois ici en Guyane pour animer des ateliers de découverte du dessin naturaliste. Donc, le dessin naturaliste, c'est le dessin botanique ou le dessin des animaux, mais c'est du dessin scientifique, hein, de la représentation scientifique d'animaux. C'est pas toujours facile, par exemple, de voir des petites fourmis à l'œil nu, ou alors il faut des microscopes. Mais grâce à ces dessinateurs, donc on peut reconstituer, on apprend à bien étudier les animaux ou les plantes et puis les représenter de manière à ce qu'on puisse scientifiquement les décrire. Donc ces deux dessinateurs vont animer, donc animent d'ailleurs dès demain l'école d'art de Guyane des ateliers. Ouverts à tout public, je crois qu'ils sont complets, hein, ces deux ateliers.
L'école d'art de Guyane qui se trouve où déjà ?
Oui, alors l'école d'art de Guyane qui est nouvellement créée, qui se trouve rue Félix Eboué à Cayenne.
À Cayenne, voilà. D'accord.
Oui, okay. C'est ça.
Et je crois qu'il nous reste une ou deux actions.
Oui, voilà, donc on a ces dessins naturalistes, donc après il y aura des ateliers dans les classes également, donc on a des petits films aussi qui vont être faits sur les représentations, des petits films d'animation qui vont être faits sur les représentations amérindiennes de la biodiversité. Donc comment est-ce que les Amérindiens, il y a beaucoup de contes autour de la biodiversité, donc mettre un petit peu ça en image pour aussi favoriser la transmission auprès des jeunes élèves et des jeunes au sens large, hein, pas seulement le milieu scolaire, mais tout public. Voilà, donc les actions. Et donc nous valorisons aussi les actions de sciences participatives que nous menons, donc aussi avec des écoles, en particulier un projet que certains de vos éditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle le projet Biodiversité urbaine de Guyane, qui consiste à découvrir et à faire l'inventaire de la toute petite biodiversité, essentiellement les fourmis, mais aussi les champignons, que l'on peut trouver dans les zones habitées de Guyane, donc les villes, les villages, les écarts, enfin là où il y a un petit peu de concentration humaine. Donc là, on a beaucoup de classes qui sont engagées dans ce projet. Donc ça, en fait, on s'appuie aussi sur les classes qui, tout en faisant des sciences, en s'amusant, vont participer à fabriquer la connaissance scientifique, puisqu'ils vont recueillir et identifier les petites fourmis qu'ils vont trouver dans leur environnement immédiat. Donc ces données, après, seront collectées par les scientifiques.
Et vous poursuivez en parallèle l'édition de son petit Science Mag, qui est une revue spécialement dédiée aux 8-18 ans, 8-12 ans.
Voilà, tout à fait. C'est une revue donc aussi financée et produite en fait par le LAVEX CEBA et l'agence Com au Carré, donc qui est spécialisée dans la médiation scientifique. Donc c'est une revue, il y a déjà 4 numéros qui sont sortis, ça marche bien. Donc c'est une revue qui s'adresse à peu près, donc elle est trimestrielle et elle donne un aperçu des sciences, donc vraiment sur un public ciblé de 8-12 ans.
Voilà. Une revue qui prend toute sa place dans la célébration de cette année de la biologie.
Oui, complètement, parce que les sujets, de toute façon, en Guyane, finalement, quel que soit le sujet, bon, nous, dans le laboratoire auquel je suis rattachée, donc le LESA, c'est vrai qu'on va s'occuper du littoral, on va s'occuper de l'anthropologie et des peuples, la connaissance des peuples d'Amazonie, on va s'occuper vraiment de la biodiversité, comme la caractérisation, la compréhension de la biodiversité. Mais quel que soit ce sujet, même si c'est du littoral, avec les mangroves, on va toujours avoir de la biologie quelque part dans les sujets. C'est vrai qu'en Guyane, c'est quand même assez difficile d'y échapper.
Absolument.
On est vraiment très proche des sciences de la vie et de l'environnement, c'est certain.
Oui.
C'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. Et voilà, c'est le rectorat justement sollicité pour mettre vraiment en lumière tout ce qu'on pouvait faire et donner vraiment un petit coup de projecteur et une impulsion aussi sur toutes ces actions qui sont vraiment faites pour les jeunes et à destination des enseignants.
Gaëlle Fornet, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce nouveau projet de sciences participatives porté par plusieurs équipes intitulé Papillonite et Papillon Cendre ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai parlé du projet de science participative BUG, sur lequel nous avons plusieurs écoles engagées, parce que c'est un projet qui s'appuyait vraiment sur la participation des classes. Et nous avons lancé récemment, donc au niveau du LESA cette fois, donc le premier projet BUG, c'était un autre laboratoire qui s'appelle ECOFOG, Écologie des forêts de Guyane à Kourou. Et le LESA donc aussi a lancé un projet de science participative qui s'appelle donc, comme vous dites, Papillonite et Papillon Cendre. Donc c'est en fait, c'est essayer de comprendre comment ce papillon qui est quand même assez problématique en termes de santé en Guyane, oui. Parce que ça provoque des réactions allergisantes, des démangeaisons. Mmh. Essayer de comprendre comment est-ce qu'il peut se déployer en ville, quelles sont les conditions en fait de son émergence, parce qu'il y a des années où il y en a, il y a des années où il n'y en a pas. Donc il y a, en fait, le programme consiste pas à aller chercher des papillons cendres et à s'irriter, bien sûr, mais à voir un petit peu par rapport à certains arbres qu'il y a dans les jardins, mesurer la hauteur des arbres, essayer de repérer à l'œil nu sans trop s'approcher les larves éventuellement de papillons qui pourraient exister. J'invite toutes les personnes c'est vraiment des expériences très faciles et très amusantes, hein, qui peuvent être faites par tout un chacun dans son jardin. Donc il y a des protocoles qui sont proposés par les chercheurs et j'invite toutes les personnes intéressées à se rendre sur les sites internet, hein, pour faire le plus simple, c'est le mieux pour avoir toutes les informations, soit du LABEX CEBA, vous tapez LABEX CEBA et vous allez tomber sur le site. Donc là, vous aurez accès à tous les protocoles et vous pouvez l'avoir également par le site de mon laboratoire, le laboratoire où je suis affectée, le LESA, donc www.lesa.cnrs.fr.
On a beaucoup parlé des collégiens, des lycéens, peu des enseignants, pourtant vous ne les avez pas oubliés puisqu'il y a une journée journée de formation qui est prévue, je crois que ce sera le 10 décembre et réservée aux enseignants de SVT, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, tout à fait. Nous n'avons oublié personne. On a parlé des collégiens, des lycéens, mais effectivement, il y a également les classes primaires. Hein, donc, par exemple, le projet de sciences participatives s'appuie également sur quelques classes primaires. Le petit Science Mag est aussi distribué dans les classes primaires. Et donc, comme vous le rappelez, c'est très bien. Nous faisons une action de formation aussi pour les enseignants, donc qui aura lieu à Cayenne, les enseignants de SVT. Donc, ce type d'action s'est beaucoup développé depuis quelques années en Guyane, un rapprochement un petit peu du milieu de la recherche et des enseignants en sciences de la vie et de la terre, pour justement permettre à ces professeurs, à ces enseignants, d'avoir des exemples concrets des sujets un peu régionaux à traiter avec leurs élèves, à analyser avec leurs élèves. Donc il y a plusieurs formations qui ont déjà été organisées et là nous en organisons une spécialement dans le cadre de l'année de la biologie autour des plateformes, une plateforme qui s'appelle PLEA, donc écologie en Amazonie, donc études de l'écologie en Amazonie. Donc ce sont des serres et des terrariums en fait qui sont installés sur le campus de recherche de Montabo, campus IRD pour faire simple. Et donc il y a des terrariums avec des grenouilles, tout ça, et qui servent un petit peu à analyser différents aspects. Donc c'est de l'expérimentation non invasive, hein. On ne fait pas de mal du tout aux animaux. Donc je tiens à le préciser parce que ça fera également partie justement de la formation. Mais par contre, c'est vraiment de l'observation en fait, des préférences, des dessins en fait, des différents types de, donc des patterns, mais des dessins en fait des tâches, la forme des tâches par exemple qu'ils ont sur eux, comment est-ce que c'est agencé, quels sont les signaux en fait que ça peut dégager, voilà. C'est un petit peu toutes ces études en fait autour des patrons de biodiversité.
Et tous les enseignants de l'académie y sont conviés?
Alors bon, il y a un nombre, c'est une formation qui est inscrite au plan académique de formation. Donc là, il faut se rapprocher du rectorat. Il y a bien évidemment un nombre de places limitées. Donc pour cette première session, mais bon, on peut voir effectivement après, suivant l'intérêt qui sera manifesté, ce sera des opérations qui pourront être renouvelées. Et de toute façon, donc je tiens ici à rappeler également que les chercheurs et les laboratoires de recherche sont toujours ouverts, évidemment, aux enseignants et même au public. Donc bientôt, on célébrera la fête de la science, comme vous le savez.
On va en parler, justement, le 20 novembre prochain.
Tout à fait. La fête de la science donc a lieu en Guyane, donc c'est la semaine du 15 au 20 novembre. Et il y a le moment fort, disons, c'est le village des sciences sur le site donc de l'université de Guyane à Trouillan. On espère qu'on pourra le faire. Bon, c'est sûr qu'avec les mesures sanitaires, bon, on verra. Pour l'instant, c'est maintenu. On a plutôt les voyants sont ouverts, on va dire. Donc, on espère que pouvoir accueillir le public et puis leur présenter aussi les travaux qu'on fait. Donc là, c'est sur, c'est pas dans le cœur des laboratoires. On fait pas de porte ouverte. Là, on est présent, on est rassemblés. Les opérateurs de recherche, les associations d'éducation à l'environnement sont rassemblés sur le village des sciences.
Et tout va se passer en présentiel. Il y aura des exposants, des stands comme chaque année.
Oui, voilà, on espère. Là, on est parti sur ce format présentiel. On espère qu'on pourra le maintenir. L'année dernière, on avait été obligé d'annuler. On avait fait en distanciel et l'année aussi, du fait de la crise du Covid. Mais là, cette année, pour l'instant, on est en présentiel. On est parti sur du présentiel. On espère qu'on pourra le maintenir.
Est-ce que vous prévoyez également des déplacements sur l'Ouest ou dans d'autres communes de Guyane dans le cadre de cette année de la biologie?
Alors, nous n'avons pas de déplacement de chercheurs cette année pour des contraintes un petit peu d'agenda que nous avons au niveau de... Cette année, c'est l'année de l'évaluation des laboratoires de recherche de Guyane et de l'université, donc on est qui se passe également au mois de novembre. Donc du coup, on est un petit peu contraint à une présence plutôt sur le littoral durant cette période. Mais on a quand même quelques chercheurs qui vont aller sur Maripasoula. Il y a aussi des actions. Il y a le collège Grandmont du Fou à Maripasoula qui nous a contacté. Donc il y a des chercheurs qui vont aller également présenter leurs travaux là-bas. Donc là, ce sera en ethnobotanique. Je crois que c'est un spécialiste ethnobotanique qui va y aller, qui s'est porté volontaire pour chez nous. Après, il y a certainement d'autres participants également. En général, les chercheurs répondent plutôt positivement en fait à toutes ces actions. On sait très bien que c'est vraiment important pour les jeunes et pour la population guyanaise, son avenir, bien sûr.
Que personne ne se sente oublié, c'est jamais facile pour les jeunes des communes de l'intérieur de venir sur Cayenne une journée ou deux. Ça demande de la logistique, des moyens qu'ils n'ont pas toujours. Et ça demande surtout de l'organisation.
Oui, bien sûr. Bon, après, il faut quand même saluer notre partenaire de médiation scientifique en Guyane. On a la chance d'avoir une CCSTI donc, qui s'appelle la Canopée des sciences. Donc, qui étant basé à Cayenne, met le paquet et fait beaucoup d'actions, en fait, ouvre beaucoup l'action, l'effort, pour déconcentrer l'action, justement, vers les communes plus isolées de Guyane. Et donc, eux, ce sont les coordinateurs de la fête de la science. Donc, ils sont, chaque année, il y a toujours des actions, il y avait des pirogues des sciences dont vous avez entendu parler. Bon, là, c'est vrai que depuis 2 ans, malheureusement, on a... Toutes ces actions ont été un petit peu suspendues, on va dire, donc il faut que ça reprenne doucement. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes, hein. On est tous, je pense que tout le monde le comprend aujourd'hui, on est tous un peu soumis à ça. Mais on essaye quand même, on lâche pas l'affaire, on essaye quand même de faire notre mission de médiation des sciences. C'est très, très important, tous ensemble, tous les acteurs réunis, les laboratoires de recherche, les centres de médiation scientifique, les associations d'éducation à l'environnement. Nous sommes tous unis dans ces actions.
Peut-être l'occasion, Gaëlle Fornet, de nous rappeler l'émission du CNRS en Guyane.
Oui, alors le CNRS est un établissement de recherche parmi d'autres établissements. donc qui sont également présents en Guyane. Hein. Le public en connaît d'autres. Hein. On peut citer l'IRD, on peut citer l'IFREMER, l'Université de Guyane aussi, hein, des laboratoires de recherche. Donc souvent, au niveau de la recherche, les forces sont un petit peu concentrées dans ce qu'on appelle des... Alors, pour le grand public, on va dire des laboratoires, mais pour nous, ça s'appelle des unités mixtes de recherche. Mmh. Donc, le CNRS est présent dans deux unités en Guyane, donc l'UMR Ecofog, Écologie des forêts de Guyane, qui opère avec l'INRAE, le CIRAD, l'Université de Guyane, l'Université des Antilles, AgroParisTech. Donc là, c'est vraiment autour de l'objet forêt de Guyane, donc c'est de la recherche... qu'on peut appeler, oui, fondamental, bien sûr. Nous, notre dada, on va dire, notre but, c'est de comprendre la biodiversité, la comprendre pour mieux, pour pouvoir mieux gérer les par exemple, enfin, pour donner des applications concrètes, ça va être gérer les grands espaces forestiers, comprendre la régénération de ces espèces, comprendre les méthodes de préservation, les bilans carbone, les changements climatiques, enfin, toutes ces... des notions qui sont absolument fondamentales à notre époque. Donc, c'est vrai que les chercheurs apportent la connaissance qui permet ensuite de prendre, d'éclairer des décisions ou d'aller dans tel ou tel sens, les décisions politiques. Donc, le UMR Ecofog, ça va être la forêt de Guyane. Et donc, le deuxième UMR, donc l'unité de recherche que nous avons, c'est le LESA, donc Laboratoire Écologie, Environnement, Interaction des Systèmes Amazoniens. Donc nous opérons avec IFREMER et l'Université de Guyane. Donc là, on va s'intéresser à l'espace littoral, les mangroves. Donc on va en fait du continuum ternaire, c'est-à-dire les mangroves, le littoral, les plages sableuses, les bandes vagues, la constitution des mangroves, mais aussi un petit peu plus loin, avec toutes les parties pêche, connaissance des espèces de poissons, toutes les thématiques en fait d'IFREMER. Ensuite, on a la partie biodiversité amazonienne. Donc là, on va vraiment être dans la forêt et la compréhension justement des mécanismes de mise en place de la biodiversité. Et c'est quand même important de le rappeler. On est opérateur de la station scientifique des Nourag, par exemple.
J'allais vous en parler, oui.
J'ai manqué d'oublier, c'est quand même incroyable. Un site, une plateforme exceptionnelle sur laquelle on peut accueillir des chercheurs du monde entier, en fait. Bon, c'est pareil, c'était un peu en sommeil depuis 2 ans, mais là, ça repart bien. On a pas mal de programmes qui se relancent. Je crois que tout le monde a un peu envie de se remettre au boulot, poursuivre l'exploration de cet environnement extraordinaire qui est l'environnement amazonien, en fait.
En raison de la crise sanitaire, les activités s'étaient un peu estompées ?
Oui, disons que la recherche, comme vous le savez, comme les auditeurs aussi peuvent le percevoir, c'est une activité très internationale. Hein. On ne cherche pas tout seul dans son coin, on cherche avec, dans le cadre d'équipes qui viennent un petit peu de partout. Forcément, quand toutes les frontières sont fermées, qu'on ne peut plus prendre l'avion, c'est un petit peu difficile. Alors, les chercheurs ont mis à profit tout ce temps-là pour analyser toutes les données qu'ils recueillent, en fait, régulièrement en allant sur les terrains de recherche. Donc, ils ont pu quand même travailler, bien sûr, mais c'est vrai que nos plateformes d'accueil, comme la station des Nourag, était un petit peu à la peine, puisque on ne pouvait plus accueillir ces chercheurs internationaux. Alors, ça a permis de faire des travaux, ça a permis de rénover, de mettre en place des dispositifs techniques aussi. Donc on est sur des thématiques aussi très importantes, transition énergétique par exemple.
Oui. Et en moyenne, les chercheurs, ils restent combien de temps sur place à la station des Nourag, par exemple? 6 mois plus?
Non, c'est moins long, c'est beaucoup moins long. Il y a plusieurs années, il y a fort longtemps, encore longtemps, comme on dit, il pouvait y avoir des gens qui restaient plusieurs mois, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, les gens restent en général, on va dire, c'est quelques jours, une dizaine de jours, ça dépend un peu des protocoles scientifiques. D'accord. Général, il faut quand même quelques jours le temps de mettre en place des protocoles. Alors après, ça dépend de ce qu'on observe. Après, il y a parfois les équipes se relaient également. Ça dépend. En général, c'est quelques jours. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Voilà. Mmh. Donc, on accueille des chercheurs. On accueille aussi pas mal de journalistes quand même. Donc, ça,
oui,
ça s'était arrêté aussi.
J'ai eu l'occasion de m'y rendre, oui, effectivement.
Oui, on a pas mal de... Donc, je dis ça parce que c'est vrai que la station n'est pas ouverte au public. Ça nous est souvent demandé, est-ce qu'on peut y aller? Non, c'est pas une station où on peut accueillir du public, du tourisme, pour des raisons très simples. En fait, c'est la priorité, bon, ce sont des protocoles scientifiques, donc c'est un lieu de travail. Donc, on peut pas, c'est difficile de mixer ça avec des activités, on va dire... Même écotouristique, c'est un petit peu difficile. Par contre, la station est quand même ouverte, donc on accueille des journalistes, des reporters, il y a régulièrement des...
reportages.
Des reportages qui sont faits sur des grandes chaînes de télévision, nationales, mais aussi internationales. Donc, comme je vous le disais, on accueille aussi des enseignants dans le cadre de formation. Voilà, il y a quand même une ouverture, disons, à un public qui n'est pas qu'un public de chercheurs, même si c'est pas le tout public, il y a quand même une ouverture de la station vers d'autres publics également.
Très bien. On sait que la recherche, ça coûte cher, tout simplement. Il y a les salaires, il y a également tous les supports, hein, administratifs, communication, comptabilité et autres. Pour finir, est-ce qu'on pourrait parler des retombées, justement, pour notre territoire et peut-être même au niveau national, de toutes ces recherches qui sont menées sur la biodiversité guyanaise, notamment?
Les retombées, bon, il faut bien comprendre que la recherche, c'est la connaissance, en fait, hein, ça sert, la vocation principale de la recherche, c'est d'acquérir des connaissances. Et la connaissance, en fait, c'est tout simplement le progrès. Donc, c'est vrai que toutes ces données, toutes ces études qui sont faites, elles servent, tout simplement à pouvoir prendre de bonnes décisions, à pouvoir mettre en place des protocoles de gestion des espaces protégés. Elles peuvent aussi permettre de...
Est-ce qu'elles donnent lieu, par exemple, à des brevets, des dépôts de brevets ou des dépôts de marques? Je peux comprendre que ça puisse pas se chiffrer en millions d'euros.
Oui, ça peut, bien sûr, ça peut arriver. Alors, sur la biodiversité, comme vous savez, c'est assez difficile de... Enfin, c'est des processus qui sont très longs. Et puis maintenant, bon, il y a eu quand même, vous pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de polémiques quand même sur ces histoires de recherche.
Bien sûr.
Des polémiques qui sont liées beaucoup à l'incompréhension et à la méconnaissance, en fait, du véritable travail de ce que c'est que la recherche. Parce que bon, les brevets sont jamais déposés sur des molécules. En fait, ils sont déposés sur... S'ils sont déposés, hein, pour l'instant, on en a...
À un certain moment, les Guyanais, ils avaient le sentiment de ne pas jouir ou bénéficier des retombées de toutes ces recherches ou des brevets qui pourraient être déposés suite à des recherches menées chez eux sur des plantes médicinales, par exemple. C'est autour de cela qu'il y avait cette polémique.
Faut être très clair, les brevets sont jamais déposés sur des plantes médicinales en tant que telles. Elles vont être déposées, elles peuvent être déposées. Alors après, je vais même pas mettre ça au futur sûr, parce que en fait ça n'existe pas. On n'a pas d'exemple. Ça c'est pas des plantes qui vont être des déposées. Ça va être des processus qui vont être identifiés dans des laboratoires. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et qui demande beaucoup de travail. Et le brevet, souvent, quand il est déposé sur un travail de recherche, en fait, il va surtout servir à protéger, finalement, l'innovation qui a été faite, pour le travail qui a été fourni, pour pouvoir identifier des processus ou une chaîne de valeur, par exemple, qui va permettre de valoriser quelque chose après, donc au bout d'un certain nombre d'années, c'est des étapes qui sont très longues. Mais après, quand vous dites que les Guyanais ne profitent pas, alors tout le monde profite de la recherche et des brevets. Tous les médicaments que nous prenons les uns les autres sont à la source, de toute façon. Il y a toujours tout ce qu'on utilise, un téléphone, c'est des brevets, tout ce qu'on peut utiliser, tout le monde profite en fait du brevet. Donc il ne faut pas non plus voir le brevet comme une volonté d'appropriation. Mmh. Il faut plutôt le voir comme une étape, en fait, d'un processus de valorisation. Une étape sur laquelle il ne peut de toute façon pas y avoir de valorisation. Mais en Guyane, on travaille assez peu, à vrai dire, sur ces questions-là. On peut quand même citer des programmes. Là, on valorise aussi... On a un programme qui est financé par les fonds européens, par exemple, qui s'appelle le programme Sestonia EDES, qui porte sur la valorisation des molécules de bois de grignon, donc pour des activités éventuellement larvicides. Et donc voilà, ça c'est l'exemple d'un projet qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet en 2014. Pour pouvoir justement, pour pouvoir aller plus loin dans la recherche aussi, pour avoir ensuite des retombées potentiellement économiques si ça aboutit à quelque chose. Bon, la plupart des brevets, souvent ils sont déposés, mais bon, ils servent juste à pouvoir continuer au départ, dans un premier temps, la recherche. Et puis après, on voit. Mais il y a beaucoup d'années se passent avant qu'on voit.
Oui.
Mais pour revenir à votre question et sortir un petit peu de cette histoire de brevet, vous me demandiez à quoi sert la recherche, en fait. Moi, j'ai envie quand même de répondre quelque chose, c'est que la recherche, elle sert avant tout à acquérir des connaissances, je pense qu'on en a largement parlé, mais elle sert aussi à former les jeunes générations. Aujourd'hui, on a une magnifique université en Guyane, les enseignants-chercheurs sont les personnes qui vont former les jeunes générations au sujet, soit scientifique, soit même sciences humaines. Quand on parle de science, il n'y a pas que certes, c'est l'année de la biologie, donc on va plutôt en parler, mais comme on l'a évoqué au départ, il y a aussi toutes les sciences humaines, donc tout ça, c'est de la recherche également. Toutes les connaissances, moi, j'appelle ça un peu l'affirmation aussi des peuples autochtones, la capacité aussi de se connaître, d'avoir la transmission de leur savoir, tout ça. Bon, c'est beaucoup aussi fait avec l'aide, en fait, en co-construction aussi avec des chercheurs qui permettent de documenter tous ces savoirs avec bien sûr les peuples autochtones. Hein. Il ne s'agit pas de, encore une fois, bon, comme on a parlé des brevets, on peut quand même parler aussi des connaissances traditionnelles. Mais en plus, vous savez qu'en Guyane, on opère dans le cadre de la loi biodiversité quand même, avec des autorisations maintenant des protocoles très bénéfiques, hein, qui permettent justement d'être en co-construction complète de tous ces savoirs avec les collectivités locales et les peuples autochtones.
Ce sera l'occasion d'en parler, Gaëlle Fornet, dans le cadre d'un nouvel échange, d'un autre entretien sur Radio Mayuri Campus. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette année de la biologie, de nous avoir présenté toutes ces actions que vous allez mettre en œuvre au cours de cette année avec les collégiens, les lycéens et les enseignants de Guyane. Merci pour cette intervention sur notre antenne et puis bonne continuation et à bientôt.
Oui, merci beaucoup Michel, donc merci à tous vos auditeurs pour leur écoute et leur intérêt, j'espère, et donc à très bientôt, à votre disposition.
Au revoir.
Pour en parler de tous ces sujets. Au revoir.